Les cours du Collège de France, Histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence.
La fois précédente, nous avions vu les martyrs, la question de savoir pourquoi mourir, mourir pour ou à cause d'eux. Débat que vous avez noté vient de reprendre dans la société française dans un autre contexte. Évidemment, et nous étions aussi sur les oppositions de violence qui étaient aussi des oppositions de légitimité dans le conflit de Palestine. Donc nous en étions là et ce que je veux dire, c'est que les débats entre services de sécurité israéliens tournent autour de la question de savoir si Arafat est le chef d'orchestre de la violence ou s'il a perdu le contrôle de la situation dans cette seconde intifada. Lui-même tient des propos tout à fait ambigus. Dans un entretien avec le journaliste David Hurst, journaliste qui vient de décéder il y a quelques semaines, publié le 3 juin dans l'Aram Weekly, il se pose plutôt comme subissant la situation. Question, mais il vous accuse de revenir à la lutte armée. Réponse, il semble avec beaucoup d'ironie que ce soit moi qui envoie des hélicoptères, des chars, des voitures blindées pour boucler toutes les villes israéliennes. C'est moi qui utilise des bombes à l'uranium et au gaz. Alors là, on a évidemment l'exagération verbale habituelle chez lui. La question de l'uranium, ça renvoie aux obus à l'uranium appauvri utilisés entre autres dans la guerre d'Irak en 90-91. Mais évidemment, il n'en a pas utilisé d'armes de ce genre en Palestine. C'est moi qui ferme les passages vers la Jordanie et Gaza. Nous avons des funérailles tous les jours. Qui peut contrôler un peuple qui a des funérailles tous les jours? Mais jusqu'à présent, a-t-il insisté, je n'ai pas donné l'ordre d'ouvrir le feu, et ils le savent. Nos policiers et nos soldats n'ont pas été impliqués jusqu'à présent. En fait, c'est plus compliqué, nous l'avons vu. Et il est toujours un peu dans la même perspective de faire une espèce de Kosovo bis, créant une intervention internationale. Et alors, sur la question de remise en ordre, bah, il dit de toute façon, avec un territoire tronçonné, je ne vois pas comment je peux rétablir l'ordre. Mais en tout cas, en ce printemps 2001, ce qui éclate maintenant avec une extrême violence, ce sont les attentats suicides. Netanyahu est frappé le 18 mai 2001, faisant 6 morts plus son auteur. C'est un attentat revendiqué par le Hamas qui parle de représailles pour les morts palestiniens. Le gouvernement israélien fait porter la responsabilité sur l'autorité palestinienne. Les républiques immédiates font de nombreux morts dans les rangs des forces de sécurité palestiniennes. On utilise des avions F-16 pour ces bombardements alors que les Américains avaient demandé de s'en abstenir. On a ainsi un bombardement aussi de la prison de Naplouse faisant 18 morts chez les policiers et les gardes palestiniens. Donc on demande à la fois à Arafat d'intervenir contre les violences mais en même temps on frappe les organes supposés chargés de la répression. Le 25 mai, un nouvel attentat suicide fait 67 blessés à Hadera, revendiqué cette fois par le djihad islamique. Puis ensuite, un autre attentat est revendiqué, sans victime, est revendiqué par le Hamas. Et donc, il y a vraiment maintenant une stratégie qui n'existait pas au début de l'intifada, de lancer des attentats suicides, et c'est essentiellement la mouvance islamiste. Ils veulent répondre à la terreur par la terreur, en quelque sorte. En tout cas, c'est leur doctrine. C'est la doctrine, entre autres, de Cheikh Yassine, que dont vous voyez la photo ici, il était paralysé, qui justifie les attentats. Alors, les Américains multiplient des tentatives de médiation. Et la question est toujours la capacité d'Arafat de mettre fin aux violences, politiquement et militairement, et le refus de Sharon d'admettre un gel de la colonisation. et de passer directement à des négociations fortes. Les Américains considèrent qu'ils n'ont pas les moyens d'imposer un gel de la colonisation, donc ils concentrent leurs efforts sur Arafat, ce qui est évidemment mal interprété. Le 1er juin, un attentat suicide du Hamas dans un nightclub à Tel Aviv fait 18 morts et 80 blessés, essentiellement des jeunes Israéliens. Alors on appelle Israël à la retenue et Arafat à la répression, avec des violences dans la population, avec des Juifs s'en prennent à des Arabes dans les rues de Jaffa. Les différentes enclaves palestiniennes sont sous blocus. Les colons attaquent différents villages de Cisjordanie. Arafat appelle à un cessez-le-feu immédiat, plus ou moins respecté. Alors, on envoie un émissaire américain qui est George Tenet, le directeur de la CIA. Il fait des allers-retours entre les deux parties. Il élabore un plan de travail, work plan, c'est-à-dire une liste détaillée de mesures spécifiques qui permettraient de reprendre la coopération en matière de sécurité, de faire respecter strictement le cessez-le-feu, de supprimer le terrorisme et redéployer les forces de défense israéliennes sur les positions d'avant le conflit. Donc, il demande l'arrêt immédiat des violences, l'arrestation des terroristes par les Palestiniens, l'assouplissement des restrictions de déplacement imposées aux Palestiniens, le retrait des troupes israéliennes. Et donc, une fois qu'on serait fait tout ça, on aurait quelques jours de calme, mais on ne sait pas combien, et on pourrait reprendre les négociations dans le cadre de l'application du rapport Mitchell. Alors, Arafat signe le document, un cessez-le-feu est annoncé le 14 juin, et on a une réduction relative de la violence, chacun accusant l'autre de violation. Et les mouvements islamistes ne veulent pas respecter, évidemment, cet accord. Alors, en gros, on peut penser qu'Arafat se comporte exactement comme il s'est comporté en Jordanie en 1969-70, et dans les premières années de la guerre du Liban, une suite d'atermoiements et de déclarations équivoques, comme je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, son fameux Laram, son oui-non, qui traduit à la fois l'absence de stratégie à long terme et la volonté d'éviter une guerre civile palestinienne. Et en ce sens, le Hamas en 2001 joue le même rôle que FPNP en 1970, déborder le Fatah par la radicalité des actions entreprises. Alors, d'autre part, les Israéliens continuent les attentats, enfin les assassinats dissimulés. Alors, ce qui perfectionne, c'est la terminologie, qui sont appelées maintenant des préventions ciblées. Des listes de noms sont dressées, on les fait circuler, on laisse même entendre qu'Arafat se trouve sur la liste. Et les autorités religieuses juives entérinent la politique d'assassinat définie comme préventif. Les moyens utilisés sont divers, allant du raid aérien aux actions de commando déguisées en arabe. Alors, il y a toute une littérature glorifiant, y compris maintenant des séries télévisées glorifiant. C'est ce qu'on peut appeler tout simplement des escadrons de la mort, si on prend un autre terme plus péjoratif. Et de toute façon, même si on dit en théorie que les colonies sont gelées, sauf qu'il y a un croissement naturel, on autorise aussi, enfin on ferme les yeux plus exactement pour la création de colonies dites illégales, on n'intervient pas. Donc en fait, la colonisation se poursuit et elle est financée par l'État israélien. Alors à la fin juin, c'est Colin Powell qui fait une tournée moyenne orientale et qui rencontre Moubarak, Sharon et Arafat. Alors on s'en tient toujours aux lignes Tenet et Mitchell, sans donner de consignes précises aux diplomates américains. Et il est plutôt sur la position israélienne, ce qui choque évidemment les Palestiniens. Alors il a envisagé un moment l'envoi d'observateurs internationaux, mais les Israéliens ont immédiatement refusé. Alors on a ce qu'on peut appeler un début de clintonisation de la politique de l'administration Bush, puisqu'on commence à discuter pour savoir s'il faut 3 jours ou 2 jours de calme avant de procéder à des négociations, comme à l'époque où on faisait un traité de 500, 250 pages pour savoir les différentes dispositions de la rue principale d'Hébron dans l'accord sur Hébron. Donc on entre dans une foultitude de détails, et à chaque fois qu'on entre dans les détails, on a des obstacles supplémentaires. Alors, Powell conseille à Bush de prononcer un discours important sur le conflit et d'exprimer clairement le désir de l'Amérique de jouer un rôle constructif. Bush accepte ce projet et envisage même de rencontrer Arafat, mais Cheney et Rumsfeld s'y opposent. Donc la violence s'accélère durant l'été 2001, et là le personnage qui monte c'est Marwan Barouti, le chef du Tanzim en Cisjordanie. Donc en gros le Tanzim c'est une milice. Alors, je le cite, c'est le peuple palestinien qui a déclenché l'intifada. Le soulèvement n'est pas le résultat d'ordre donné, ne prendra pas fin par la décision de quelqu'un. Je ne demande pas la destruction d'Israël, mais la fin de l'occupation des territoires par Israël. Il faut tout de même se rappeler que nous avons été à l'époque des accords d'Oslo à l'avant-garde de la paix. Il nous a fallu convaincre notre peuple d'accepter les accords, ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, je me sens trahi par les Israéliens, ils n'ont rien appliqué de ce qu'ils avaient promis. Ce ne sont pas des gens justes, pas des gens honnêtes. Donc en fait, Arafat El Fattah sont pris entre deux feux, si j'ose dire. D'une part, il y a évidemment les mouvements islamistes radicaux, et d'autre part, les radicaux du Fatah eux-mêmes, dont on ne sait pas très bien dans quelle mesure ils obéissent ou non à Arafat. Alors, est-ce qu'il y a un chef d'orchestre clandestin? Certainement pas, tout simplement, dans un territoire tellement tronçonné qu'est la Cisjordanie et la bande de Gaza, on voit mal une organisation centralisée de l'action. On peut donc définir, si vous voulez, l'intifada comme un soulèvement factionnel, un jeu local d'action et de réaction. Mais chez les Palestiniens, il y a beaucoup d'esprits lucides qui s'inquiètent du danger de ce qu'on appelle la militarisation de l'intifada et appellent à revenir au caractère relativement non violent de la première intifada. Alors, sur la question des observateurs internationaux, les Palestiniens devraient avoir aussi des observateurs européens. Mais où les mettre? Seulement dans la zone A de Cisjordanie ou dans l'ensemble de Cisjordanie comme Jérusalem? Et puis je vous rappelle, les Israéliens ont très mauvais souvenir des observateurs de l'ONU de 49 à 67 parce que souvent ils faisaient des rapports très défavorables aux actions israéliennes. Donc ils se faisaient traiter d'antisémites. L'armée israélienne et ses affiliés universitaires, c'est-à-dire ce mouvance qui s'est créée au début du XXe siècle, enfin du XXIe siècle, enfin fin du XIXe siècle, enfin bref, ces dernières décennies, excusez-moi, ce qu'on appelle les spécialistes de contre-terrorisme ou en terrorisme. Et finalement, on a une foultitude de gens qui font des écrits, qui se posent en spécialistes, dont on peut se demander d'où viennent les compétences. Et donc, on commence à accuser Ben Laden et son organisation Al-Qaïda de vouloir étendre leur activité en Palestine. Donc, c'est le djihad international dont je reparlerai prochainement. Mais le djihad international n'est justement pas présent en Palestine. Ça, c'est fondamental, ne serait-ce que parce qu'il est farouchement anti-chiite. Et donc, le Hezbollah fait obstacle à sa présence sur le territoire palestinien. Il y aura un moment du djihad dans le nord du Liban, mais pas au Liban sud. Et de toute façon, le Hamas et le Hezbollah peuvent être définis une fois pour toutes comme des islamo-nationalistes, et donc ils rejettent évidemment les actions comme le djihad international qu'on pourrait définir comme internationalistes. Alors, 31 juillet, une tentative d'assassinat du responsable du Hamas à Naplouse fait une dizaine de morts, dont deux enfants. Les attentats se poursuivent, les assassinats, et chaque assassinat provoque de nouvelles vagues de violence. Donc, c'est Barouti qui mène un peu le jeu à ce moment-là et qui affirme qu'il faut une union nationale, je cite, « L'objectif principal de cette intifada est le renforcement de notre unité nationale afin d'inclure toutes les factions palestiniennes sans exception. Les Palestiniens sont des compagnons de terre, de destin et de lutte. Nous devons traduire cela en quelque chose de plus puissant. Il faut forger un accord d'unité entre les combattants palestiniens sur le champ de bataille. Nous devons étendre cette unité à nos dirigeants politiques. Cette étape pourrait être franchie en élargissant le cadre de la direction politique aux membres du Hamas, du Jihad et à d'autres combattants. Une autre option est la formation d'un gouvernement d'unité nationale. » Donc on voit, se pose pratiquement en leader de l'ensemble de la cause palestinienne. Alors Israël, on se pose la question de savoir que faire en dehors de la répression. Peres se pose évidemment toujours en pacificateur, mais sans indiquer dans quel sens pourraient avoir les négociations, repartir des paramètres de Clinton, de Tabac ou autrement. On utilise aussi le concept musulman ou arabe de Hodna, qui signifie trêve et qu'on utilise en général dans la vie politique, enfin dans la vie sociale, dans la tentative de règlement de vendetta. On reprendra aussi ces questions. Alors, d'habitude, quand il y a une vendetta, on fait une, pour l'arrêter, il faut calculer le prix du sang. C'est-à-dire que les deux parties se retrouvent à égalité des pertes, et éventuellement, ce qu'on appelle le prix du sang, c'est si quelqu'un a perdu plus que l'autre, il y a une compensation financière qui est offerte. Et c'est un moyen classique de régulation de la violence dans tous les espaces où la vendetta existe. Mais Rona peut aussi prendre le sens d'arrêt temporaire des combats. Incapable d'admettre publiquement la possibilité d'un accord avec l'État hébreu, le Hamas utilise lui-même cette référence au droit islamique de la guerre, qui renvoie aux actes du prophète. Il est possible de passer avec l'ennemi une trêve dont la durée peut être très longue, mais il ne peut être question d'un règlement définitif. Ce recours à un droit islamique largement fictif n'a aucune chance de s'imposer devant un droit des gens d'origine européenne qui existe depuis plus de deux siècles comme droit international. Au mieux, on reprendra la question. Le 9 août, un attentat suicide dans une pizzeria à Jérusalem fait 14 morts et 132 blessés israéliens. Attentat revendiqué à la fois par le Hamas et le Jihad. L'autorité palestinienne condamne l'action, mais la population palestinienne s'en félicite. On ferme les installations politiques palestiniennes à Jérusalem et on détruit les installations de police, ce qui n'a aucun résultat particulier. Alors, le FPLP avait rejoint la lutte armée. Son leader, Mustafa Zabri, le successeur de Georges Habash, est assassiné le 27 août par un tir de missile israélien. L'ensemble des Palestiniens appelle à la revanche, comme vous pouvez le voir dans cette manifestation, à Ramallah. Pour les Israéliens, les assassinats contribuent autant que les discussions à pousser les Palestiniens à trouver une attitude pacifique. Mais en réalité, ça fonctionne totalement en sens inverse. Et l'opinion publique arabe est très mobilisée à l'extérieur, et les chefs d'État arabes préviennent que l'antimécanisme des opinions publiques risque de déchaîner des violences contre les Américains. Alors on répond, si vous n'êtes pas d'accord, on vous réduit les aides financières que nous vous apportons. Mais reste celui qui n'a pas besoin de l'aide financière américaine, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, et qui est à l'époque toujours le premier pays exportateur de pétrole. Pas le premier pays producteur, faites attention, ne faites pas la confusion entre producteur et exportateur. Le prince héritier Abdallah, qui détient le pouvoir réel, a marqué son mécontentement. Il a refusé de se rendre aux États-Unis et fait porter de la responsabilité de la situation sur les Américains. Il exige une sortie de l'immobilisme et la définition de perspectives d'avenir. De ce fait, en août 2001, la tension monte entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Et le prince Abdallah fait une lettre au président Bush dans laquelle il marque que c'est son droit à Bush d'abandonner toute prétention d'équilibre et d'encourager Sharon sans faire aucun effort pour arrêter le carnage, mais il devrait se rendre compte que de telles actions se rendraient difficiles pour l'Arabie Saoudite de maintenir une amitié publique avec les États-Unis. C'est un moment important parce que Bush envisage alors de reconnaître l'idée que le processus de paix devrait déboucher sur la constitution d'un État palestinien. Il fait passer le message à l'Arabie Saoudite et dit qu'il l'annoncera dans quelques semaines. Alors la diplomatie européenne essaye aussi d'entrer dans le jeu, mais ça ne donne pas grand résultat en dépit de l'activisme du ministre allemand des Affaires étrangères, Joschka Fischer, un écologiste au passage. Les Européens n'ont pas d'idées nouvelles à soumettre en dehors des retours aux avancées de tabac dont les Israéliens ne veulent pas. Ils se contentent donc de pouvoir maintenir des canaux de communication avec les deux parties. Et depuis le début de l'administration Bush, une certaine tension s'est établie avec les alliés européens du fait de l'unilatéralisme de la politique américaine, avec successivement le refus de participer à la Cour pénale internationale qui vient d'être créée, puis le rejet sans consultation du protocole de Kyoto. De façon générale, le souverainisme au pouvoir est mal ressenti, tout aussi bien du fait de l'absence de consultation que d'accord sur un certain nombre de valeurs nouvelles. Bon, alors là nous allons changer complètement de sujet, nous allons entrer dans le 21e siècle et avec ce qui va se passer en septembre 2011 qu'on peut appeler un tournant de l'histoire, ce qui est évidemment une petite ironie historique parce que certains d'entre vous savent que jadis il y avait un livre classique d'Arthur Conte qui s'appelait Bandung, tournant de l'histoire. Et donc nous allons voir ce qui est ce tournant de l'histoire qui sera la conférence de Durban au début de septembre 2001. Mais avant, il faut faire un retour historique sur un problème totalement essentiel et totalement contemporain, qui est la question coloniale et les droits de l'homme. Alors, les années 90 avaient vu, après l'effondrement de l'Union soviétique et la guerre d'Irak, une hégémonie régionale, voire mondiale, américaine, qui les États-Unis se définissant comme une puissance bénévolante. Certes, la persistance de la question irakienne constituait une gêne certaine, avec un blocus désastreux pour les populations. Et puis on l'a vu, c'est dans cette période, dans les années 90, que s'est constitué le discours néoconservateur tendant à faire de la supériorité militaire américaine un instrument destiné à interdire l'émergence d'une puissance rivale et à diffuser une démocratie selon Vénus. Les États-Unis et Israël étant une démocratie selon Mars, vous rappelez le discours. Mais il y a d'autres discours que celui des néoconservateurs qui se développent dans le monde en cette aube du troisième millénaire ou du 21e siècle. Je vous rappelle que les millénaires commencent dans les années 01 et pas dans les années 0. Ah, c'est un problème de mathématiques. Il y a justement déjà à cette époque, dans les années 90, l'utilisation du terme post-colonial. Mais si c'est une notion utilisée, elle est d'une ambiguïté totale ou plus exactement d'une imprécision totale, puisqu'il n'est pas clair de savoir s'il s'agit de la persistance du colonial après la dépendance ou la constitution d'un lendemain du colonial. Le terme est d'une ambiguïté totale. Mais on ne parle pas encore en 2001 de décolonial ou de woke. Alors, déjà, quand on parle de post-colonial, c'est faire l'impasse sur toute la période entre les indépendances et maintenant, enfin entre les indépendances et le début du XXIe siècle. Parce que ce qui avait fait vogue au moment des indépendances, c'était les théories de la modernisation. Elles postulaient que les sociétés suivent un processus linéaire de développement, analogue à celui qu'a connu l'Europe de l'Ouest, et même plus que l'Europe de l'Ouest, l'Angleterre. Ça, c'est une casse-tête permanent. Les économistes et les historiens ont toujours tendance à voir la révolution industrielle sur le modèle de l'industrialisation britannique au XIXe siècle, ce qui est évidemment une absurdité, puisque l'Angleterre a détruit son agriculture en faisant son industrialisation. Alors que le reste du monde, et en particulier la France ou l'Allemagne, se sont industrialisés, ben ils ont maintenu leur agriculture. Ils n'ont pas fait l'erreur britannique. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de cuisine anglaise, mais qu'il y a une cuisine française ou une cuisine italienne, parce que l'agriculture n'a pas été sacrifiée par la révolution industrielle. Donc la modernité, terme essentiel à l'époque, regrouperait ainsi industrialisation, urbanisation, éducation de masse, rationalité scientifique, démocratie libérale et économie de marché. En quelque sorte, la modernisation économique devrait immanquablement déboucher sur la modernité politique sous forme de démocratie pluraliste et représentative. C'est cette vision de l'histoire qui explique l'ouverture que l'Occident fait aux Chinois à partir des années 1990. C'est de mettre au niveau les Chinois qui, donc, à fur et à mesure qu'ils adopteront l'économie de marché, ils deviendront de plus en plus libéraux et de plus en plus démocrate. Alors vous aviez la variante marxiste de la théorie de la modernisation qui expliquait que l'industrialisation allait étendre la part de la classe ouvrière dans la société générale et déboucherait inévitablement sur l'adoption du socialisme. D'où les débats que j'avais évoqués dans les années précédentes, à l'époque nassérienne, chez les marxistes, sur l'existence ou non d'une voie non capitaliste de développement. Et si la voie non capitaliste de développement débouchait ou non sur le socialisme. Madame Carrère-Dancausse avait écrit à l'époque, dans les années 60-70, des textes formidables sur ces sujets qui n'intéressent strictement plus personne aujourd'hui. Alors, face à la théorie de la modernisation, dans la même période, vous aviez les théories de la dépendance, qui enfermeraient les pays concernés dans une incapacité à sortir des dépendances structurelles de l'économie mondiale dans un jeu entre centre et périphérie. Les centres accumulaient les productions de haute valeur ajoutée, condamnant les périphéries aux activités de basse productivité. C'est la théorie qu'on m'enseignait quand j'étais étudiant, il y a un demi-siècle, que c'était la théorie donc des déséquilibres des termes de l'échange. Les pays sous-développés, parce qu'on vous disait ça à l'époque, exportaient des matières premières minérales et alimentaires dont les prix ont tendance à baisser contre des produits manufacturés des pays industriels dont les prix ont tendance à augmenter du fait du progrès technique. Plus le fait qu'on n'abaisse pas les salaires des ouvriers dans les pays industriels, etc. Donc les prix des produits manufacturés avaient tendance à monter plus vite que, alors que les matières premières baissaient. Et donc les théoriciens de la théorie de la dépendance prenaient un développement fondé sur les besoins internes des sociétés, avec une cartélisation des exportations, donc réunir les différents pays qui ont le même produit d'exportation pour contrôler la production et ainsi faire monter les prix. Le plus grand exemple de cartélisation, c'est évidemment l'OPEP. Cartéliser les exportations et réduire la dépendance envers les marchés mondiaux par une industrialisation autonome. Autrement dit, si on compare la théorie de la dépendance et la théorie de la modernisation, il y a deux grands coupables intellectuels dans tout ça. C'est l'Américain Walter Rostow, dont la doctrine sur les étapes du développement économique a fait ravage entièrement. Nasser était un disciple de Rostow. Il avait distribué le livre à son entourage. Et puis l'autre côté, si ça vous dit quelque chose, Samir Amin, qui est mort il y a quelques années, dans la théorie, au contraire, de la dépendance. Voilà. Comme je le dis souvent, il ne faut pas laisser des intellectuels jouer avec des allumettes. Alors, donc, c'est de Prévert. Hein. Dans les derniers temps du XXe siècle, s'est construite une discordance des temps entre un monde occidental pour qui l'âge colonial est révolu et n'est perçu plus ou moins que comme un épisode folklorique de l'histoire européenne. En gros, pour la génération de la fin du XXe siècle en Europe, la conquête du Sahara par les Français, c'est une sorte de Paris-Dakar. Je plaisante pas, hein, j'ai vu ça à l'époque. Et de l'autre côté, vous avez un monde affranchi au lendemain de la Seconde Guerre mondiale qui vit ce temps comme encore présent sous la forme double du ressentiment et de la revanche, conséquence des humiliations infligées du temps de la domination coloniale. C'est le début du ressassement permanent d'un passé victimaire. Et ce ressassement est souvent manipulé par les pouvoirs en place, à un moment où, paradoxalement, ils faisaient comme jamais auparavant appel à des capitaux extérieurs, ceux de la seconde mondialisation, et où l'émigration du sud vers le nord se poursuivait, voire s'intensifiait. Donc on a, si vous voulez, ce fait qu'on attaque en permanence la culture, la puissance, la civilisation occidentale, mais on passe son temps à essayer d'y entrer. Et dans ce point de vue, oui. Alors ces ressentiments se nourrissent de l'échec du tiers-mondisme révolutionnaire des années 60 et surtout, ça c'est le fait essentiel, de l'impossibilité de se penser sans faire référence à l'Occident. à la fois par l'histoire, par les doctrines, par les actions. À l'époque de la théorie de la modernisation, on avait tout le mouvement, on disait il faut que les puissances industrialisées nous offrent de l'aide au développement. Et on avait fixé des objectifs, l'Europe, la France avait fixé 1% de son produit national brut pour l'aide au développement, en y intégrant évidemment les départements d'outre-mer. Mais ce 1% était un chiffre assez arbitraire qui en fait correspondait à ce que la 4e République avait fait dans les derniers moments de l'Empire colonial français. C'est-à-dire que la 4e République avait dépensé 1% du PNB pour développer économiquement, en particulier l'Afrique noire. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles la décolonisation a été acceptée, c'est que on considérait à Paris de plus en plus que la colonisation coûtait trop cher et qu'il fallait mieux partir parce que ça pesait un fardeau financier. Alors, s'y ajoute au fait qu'on si on ne peut pas se penser sans passer par l'Occident, s'y ajoute la question des droits de l'homme. Dans le temps de la guerre froide, tout était permis, parce que l'on agissait pour un plus grand bien ou pour le moins pour le bénéfice de son pays ou de son camp. Alors, c'est symbolisé par un aphorisme attribué à Franklin Roosevelt à propos d'un dictateur sud-américain. « He may be a son of a bitch, but he's our son of a bitch. » C'est peut-être un fils de pute, mais c'est notre fils de pute. Donc il nous sert. Donc c'est donc cette politique. Alors prenons un exemple tout à fait simple. L'Union européenne, les pays européens décident de faire un tribunal des droits de l'homme. Pour l'ensemble des pays européens, indépendamment de ce qui deviendra l'Union européenne, ça couvrira jusqu'à la Turquie, etc. Il y aura une convention européenne des droits de l'homme et un tribunal des droits de l'homme. Mais les Français et les Anglais ne sont pas fous. Hein. Ils disent, on est d'accord, mais à condition que ça ne s'applique pas à nos colonies. Et les Anglais auront juste un problème dans les années 50, c'est qu'ils ont dit que ça ne concernait que les pays européens, les droits de l'homme. Mais ils ont eu des problèmes à Chypre. Et Chypre faisait partie de l'Europe. Donc les Chypriotes ont saisi le tribunal des droits de l'homme à ce moment-là. Et donc les Français ne lèveront complètement la clause coloniale que quand il n'y aura plus de colonies. Ce qui facilite évidemment les choses. Alors le tiers-mondisme était plus une revendication de restauration de la dignité nationale qu'une défense des droits de l'homme. Bien sûr, il mettait en avant l'exigence de reconnaissance de l'égalité des races et des nations. Il s'accommodait parfaitement du régime dictatorial et policier du moment qu'il était défini comme révolutionnaire. Autrement dit, un Morabarat égyptien, c'est progressiste, tandis qu'un Savak iranien, c'est pas bien. Je parle des services de répression. Donc, ce qui était à la base du tiers-mondisme, c'était la volonté de s'imposer dans le champ international comme acteur de premier plan, mais aussi le refus de toute ingérence dans les affaires intérieures. C'est ce qui était conçu, vu à la conférence de Bandung en 1955, où très peu des participants à Bandung pouvaient être considérés comme des démocrates ou de pays démocratiques. Il y en avait que deux, finalement, qui étaient vraiment démocrates. C'était le Japon, mais le Japon ne s'est pas vraiment beaucoup exprimé à Bandung. Et l'autre, c'était la plus grande démocratie du monde, c'est-à-dire l'Inde de Nehru, qui en effet était authentiquement démocrate dans cette période. En fait, les Afro-Asiatiques s'étaient définis contre les hommes blancs en général. D'où le fait qu'à Bandung, l'Union soviétique n'avait pas été invitée. Et il s'agissait de décoloniser, tout sauf l'Empire russe, évidemment, puisqu'on ne le considérait pas comme colonial à l'époque. Dans les années 1960, le tiers-mondisme s'était élargi en devenant tricontinental, Afrique, Asie, Amérique latine, dans une perspective révolutionnaire et anti-impérialisme. Donc, il s'était devenu un universalisme de combat qui remettait en cause la primauté de l'Occident. Mais c'était un universalisme, ce n'était pas un particularisme. Mais après le triomphe de la fin de la guerre du Vietnam en 1975, tout s'est brutalement effondré. La seconde moitié des années 70, voit. Attends, je fais une correction sur l'erreur. Excusez-moi. Voilà. Voit le remplacement du paradigme du combattant par celui de la victime et celui de la libération par celui des droits de l'homme. Ça, c'est assez extraordinaire. Je crois vous l'avoir déjà dit souvent, le 1er août 1914, l'Europe et le monde a basculé dans une culture de la guerre. Et dans la culture de la guerre, le personnage principal est le héros qui combat pour une cause. Il combat pour, et dans un pour qui est un avenir radieux, la libération des territoires, la fin des classes sociales, et ainsi de suite. Et donc, dans la culture de guerre, vous aviez une analogie ou une synthèse croissante entre le militaire et le militant. Et l'idée, en gros, était résumée par l'aphorisme bien connu, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc, il y a des dégâts, mais c'est normal puisque nous agissons pour une cause supérieure. C'est encore une autre forme de ce qu'on appelle le principe du moindre mal. Donc, brutalement, entre 1975 et 1980, on ne s'intéresse plus aux combattants, on s'intéresse aux victimes. C'est-à-dire qu'on passe de ceux qui sont morts pour à ceux qui sont morts à cause d'eux. Et dans ce « à cause d'eux », les premières victimes qui apparaissent, pour ceux qui se rappellent cette période, et je pense qu'il y en a ici quand même, ce sont les boat people qui deviennent les victimes par excellence. On avait vu le symbole de Sartre et Aron allant voir M. Giscard d'Estaing pour demander une intervention française pour sauver les boat people vietnamiens et cambodgiens. Mais évidemment, ça, si ça s'est fait, le basculement s'est fait entre 1975 et 1980, il y a eu une préparation. Tout le travail qui avait été fait au lendemain de la Seconde Guerre mondiale avec la Convention internationale des droits de l'homme et les différentes conventions signées par les membres de l'ONU. Mais significativement, c'est en 1977 que Amnesty International reçoit le prix Nobel. Human Rights Watch est créé pour faire observer le respect des accords d'Helsinki en Europe. Mais à partir du moment où il y a la montée en puissance de cette nouvelle génération des humanitaires, sans parler Médecins sans frontières, Médecins du monde, etc., pour parler du cas français, nous avons la question du droit d'ingérence. Alors, on le voit très bien, en 79, le président Carter avait construit sa politique face à l'Union soviétique sur le respect des droits de l'homme. Et en 79, il est paralysé lors de la révolution iranienne. Comment se poser comme défenseur des droits de l'homme quand il y a une révolution qui met à bas un régime dictatorial et policier qui est l'allié des États-Unis, d'où la paralysie de la politique américaine à ce moment-là. Alors donc, on passe au droit d'ingérence, ce qui remet en cause la souveraineté intérieure des pays concernés, à un moment où on est dans la grande phase des transitions démocratiques, puisque après, il y a eu une première vague de transition démocratique de dictature vers des démocraties dans le monde dans les années 80, et puis c'est accéléré évidemment avec la chute de l'Union soviétique et du bloc soviétique, donc toute l'Europe de l'Est est entrée en transition. Et à l'époque, vous aviez toute une science de politique qui s'appelait la transitologie, qui étudiait les phases successives des mouvements de transition des dictatures, de gauche ou de droite, vers des régimes démocratiques. Alors, on a donc aussi une critique par les néoconservateurs américains du tiers-mondisme, puisque les néoconservateurs mettent en avant la primauté de la démocratie représentative, devenue panacée à tous les problèmes du monde, avec l'adage complètement faux, comme j'essaie de signaler, qui est que deux pays démocratiques ne se font jamais la guerre, ce qui est absolument faux, avec la variante Friedman, qui est encore plus absurde, je vous le rappelle. Aucun pays qui a un McDonald's ne fait la guerre à un autre pays qui a un McDonald's. Ce qui est faux, puisque je rappelle, il y a des McDonald's au Liban et il y a des McDonald's en Israël. Alors, la critique des pays non occidentaux par les néoconservateurs trouve sa contradiction dans un discours faisant de l'universel démocratique un instrument de domination qui imposerait des normes étrangères aux pays concernés. Donc, face à l'universalité des droits de l'homme, s'oppose la théorie des valeurs. Il y a des tas de valeurs islamiques, hindoues, asiatiques, etc., qui sont supérieures aux droits de l'homme puisqu'elles correspondent à la nature et des sociétés, de leur culture et de leur civilisation. Et c'est évidemment... Vous savez, le problème avec la culture occidentale, c'est que vous ne pouvez pas la rejeter parce qu'elle dit tout le contraire de tout. On trouve tout dans la culture occidentale. Et donc, toutes ces oppositions entre authenticité et universalité, ça existe déjà depuis des siècles. C'était au départ le débat en Allemagne face à la Révolution française, où on opposait la culture allemande qui était authentique face à la civilisation française qui était un plaquage externe. Et ensuite, on l'a retrouvé en Russie entre les slavophiles qui prenaient la culture russe authentique contre les occidentalistes qui voulaient imposer les normes européennes. Donc ce sont des débats qui existent depuis longtemps dans la culture européenne et occidentale et qui sont maintenant universalisés à la fin du XXe siècle dans toutes ces théories des valeurs et de l'opposition que l'on fait entre l'endogène et l'exogène dans les sociétés anciennement dominées. Autrement dit, pour les sociétés en question, pour les pouvoirs en place, la revendication des droits de l'homme et du droit d'ingérence, c'est la reprise des interventions coloniales de jadis. Alors, s'y ajoutent pour certains nombres de pays, dans cette période, des restructurations économiques imposées de l'extérieur à cause des crises de paiement de la dette. Et puis, il y a l'arrivée au pouvoir d'une nouvelle génération qui n'a pas connu la domination coloniale, mais qui se sent brimée par les inégalités structurelles qui ont largement persisté. Et comme on l'a vu, un passé d'humiliation historique, c'est une ressource politique. Le meilleur exemple, c'est la Chine d'aujourd'hui, où le pouvoir répète interminablement le poids des traités inégaux imposés par les puissances occidentales au XIXe siècle et les mettant pratiquement toujours au présent. Et la grande gloire de la Chine d'aujourd'hui, c'est d'avoir pris la revanche historique sur la Chine humiliée du XIXe siècle. Et ça, c'est le cas aujourd'hui, et donc on le voit très bien. Alors, dans ce cadre-là aussi, il y a le Japon qui est condamné pour ses aventures coloniales. Alors, il y a un facteur supplémentaire, c'est que les Européens étaient quand même arrivés à un bon mécanisme de repentance, ce que le Japon n'avait jamais réussi à faire jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est plus facile de taper sur le Japon qu'on est en Corée ou en Chine que sur les Occidentaux, parce qu'ils sont plus vulnérables par l'absence de repentance japonaise. Parce que c'est une notion qui n'existe pas vraiment dans la culture japonaise. Donc, tout est une question d'interprétation. La situation post-coloniale permet de faire retomber la responsabilité des malheurs présents sur le colonialisme occidental, dont paradoxalement sont reprises les catégories, en particulier raciales, en théorie pour les contester, mais en réalité pour les renforcer. C'est d'où qu'on parle de gens racisés pour dire que, en fait, il y a des races. Et donc, on maintient les catégories coloniales en faisant semblant de les contester. Parce qu'il est plus facile de condamner la politique occidentale que de se mettre soi-même en critique. Et puis, c'est moins rentable politiquement. Alors déjà dans l'entre-deux-guerres, le mouvement national palestinien avait tenté de mobiliser à son profit le monde musulman, ce qui avait inquiété considérablement les Britanniques. Le plan de partage de l'ONU en 1947 a pu acquérir la majorité des deux tiers parce que cette majorité était essentiellement composée de pays de tradition chrétienne, bloc de l'Est compris. Et il n'avait pas de ressenti colonial. En 47, il n'y a pas de ressenti colonial à l'ONU, même si l'ONU a défini une fois pour toutes dans la charte que les colonies étaient des territoires non autonomes et qu'il fallait donc les amener un jour ou l'autre à l'autonomie et à l'indépendance. Mais de toute façon, les États américains du Nord comme du Sud en 1947, sont dirigés par des descendants de colons et d'immigrants européens, même s'il existe dans ces pays des mouvements indigénistes. Mais c'est pour ça qu'il est quand même très arbitraire de définir pour l'Amérique latine un discours post-colonial, compte tenu que l'indépendance, ce n'est pas les années 1960 pour l'Amérique latine, c'est les années 1820. Ce qui fait quand même deux siècles aujourd'hui. En revanche, dès Bandung, la cause palestinienne avait été soutenue par les Afro-Asiatiques. Rajame Nelseini avait été participant à Bandung et la conférence avait pris la défense des Palestiniens. Le mouvement des non-alignés s'était inscrit dans cette continuité. En 1958, Golda Meir, alors ministre des Affaires étrangères, s'inquiétait du fait qu'il n'y avait pas, disait-elle, des cousins dans les nouveaux membres des Nations Unies, c'est-à-dire pas de pays d'origine occidentale, même s'il s'agit du bloc de l'Est. Les Russes sont des cousins, mais pas les Chinois. Donc il fallait créer des relations avec les nouveaux membres. Plus l'idée, la stratégie de Ben-Gourion à la fin des années 50 de contourner le monde arabe en faisant des alliances périphériques par rapport au monde arabe, la Turquie, l'Iran, l'Éthiopie, etc. C'était la stratégie de contournement stratégique. Les pays d'Afrique noire nouvellement indépendants, dans les années 1960, avaient eu des expériences de coopération avec l'État hébreu, aussi bien dans le développement que dans la coopération militaire. Mais ces expériences étaient largement essoufflées avant 1967. Après la guerre de juin, les relations s'étaient progressivement dégradées. L'organisation de l'unité africaine a appelé à l'évacuation des territoires occupés. Les pays de l'Afrique de l'Est avaient besoin de la réouverture du canal de Suez. Le ton s'était durci ensuite avec l'adjonction de la cause palestinienne. À la suite de la guerre d'octobre 1973, la plus grande partie des États africains avaient décidé de rompre les relations diplomatiques avec Israël. Les pays concernés donc rejoignent la cause palestinienne et en témoignent en 1975 le vote par l'Assemblée générale de l'ONU de la résolution assimilant le sionisme au racisme, texte ressenti comme obscène par les Occidentaux. 5 pays africains s'y sont opposés et 11 se sont abstenus. Tous les autres ont voté pour la déclaration. Et on a là ensuite le problème des relations entre Israël et l'Afrique du Sud. Plus la décolonisation progressait, plus la nature coloniale d'Israël était dénoncée dans les pays nouvellement indépendants. Parce que les pays qui avaient eu une expérience de colonisation de peuplement savaient de quoi il s'agissait et le voyaient parfaitement sur le terrain en Israël-Palestine. Et puis, s'y ajoute la question de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud avait apporté un important soutien au mouvement sioniste lié à la fois à l'importance du biblisme des Afrikaners, parce que les Afrikaners, donc les blancs d'origine hollandaise, qu'on appelle les Afrikaners, qui sont là depuis le XVIIe siècle, hein, avec une petite composante française chez les Afrikaners, puisque vous avez des descendants de Huguenots chez les Afrikaners, qui ont perdu toute la référence à la langue française, sauf leur nom propre, qui sont encore des noms francophones. Donc les Afrikaners sont d'abord des biblistes, ils se considèrent eux-mêmes comme le peuple élu. Donc c'est chouette de l'être. Et puis ensuite, ils peuvent être considérés au départ comme assez antisémites en face de l'existence d'une importante communauté juive en Afrique du Sud. Mais dans les années 60, Israël avait condamné l'apartheid en Afrique du Sud, ce qui avait amené Hendrik Verwoerd, premier ministre d'Afrique du Sud à l'époque, de répondre que les Israéliens avaient pris les terres des Arabes qui vivaient depuis 1000 ans et qu'ils pratiquaient l'apartheid. Et donc il y avait eu à ce moment-là des sanctions sud-africaines sur les transferts financiers entre l'Afrique du Sud et Israël, transferts financiers qui venaient de la communauté juive d'Afrique. Alors l'édite communauté juive avait mené une politique prudente dans cette question dangereuse, ne voulant pas provoquer des réactions antisémites de la part des Afrikaners au pouvoir. Bien sûr, il y a eu des individualités juives courageuses qui ont lutté contre l'apartheid, des militants tout à fait respectables, mais la communauté juive dans son ensemble s'est tenue sur une position de retrait dans ce dossier. Et en plus, les juifs de Sud d'Afrique du Sud considéraient Israël comme une position de repli au cas où l'Afrique du Sud s'effondrait. Et vous aviez déjà un courant d'immigration de juifs sud-africains vers Israël. Après 1967 et surtout 1973, les relations se sont intensifiées, en particulier dans le domaine militaire, en dépit des sanctions imposées par l'ONU. En 1979, 35% des exportations de matériel militaire israélien vont vers l'Afrique du Sud. C'est d'autant plus facile que les sanctions, les embargos, font que les autres pays industriels, fabricants de l'armement, ont tendance à réduire leurs exportations d'armes vers l'Afrique du Sud. Ça fait mauvais genre à l'époque. Alors, si les États africains condamnaient toujours la politique israélienne, ils avaient repris, pour certains nombres d'entre eux, des relations un peu clandestines avec Israël. Mais en la fin du XXe siècle, on peut voir ce qu'on peut appeler une sorte de mercenariat israélien au service de plusieurs pays africains, c'est-à-dire donc des militaires israéliens qui viennent comme conseillers militaires, voire plus, dans un certain nombre de dictatures d'Afrique noire. Alors, entre l'Afrique du Sud et Israël partagent la même mentalité d'État entouré d'ennemis et en même temps l'avant-poste de la civilisation. Publiquement, les relations diplomatiques se sont maintenues au plus haut niveau avec des visites officielles de ministres. Là, vous voyez le ministre, premier ministre israélien Wurster au mur des lamentations en avril 1976. Mais ce qui intéressait aussi les Israéliens, c'était les Bantoustans sud-africains, c'est-à-dire ces territoires peuplés de populations noires et censés être autonomes, ce qui permettait de dénaturaliser les Noirs sud-africains, puisqu'on les faisait citoyens d'un Bantoustan, même s'ils n'habitaient pas dans le Bantoustan. Donc ils n'étaient plus considérés comme des Sud-Africains. Donc là, vous voyez sur la carte la disposition des Bantoustans, qui évidemment sont sur la partie est de l'Afrique du Sud, puisqu'il n'y en a pas à l'ouest, parce qu'à l'ouest, il y a du désert. Voilà, tout simplement. Donc, les Israéliens sont très intéressés. Alors, évidemment, soyons un point fondamental, hein, même si on fait des analogies entre l'Afrique du Sud et Israël, il y a une différence colossale, c'est que l'Afrique du Sud, c'est 50 fois la taille d'Israël-Palestine. Il y a de l'espace. Là, en Israël-Palestine, il n'y en a pas. Donc, vous voyez, les Bantoustans, alors les Israéliens investissent aussi pas mal d'argent dans les Bantoustans. Et ils se posent la question de savoir s'ils ne seraient pas un modèle pour une autonomie palestinienne. Et du coup, dans tous les projets de l'époque, les Palestiniens refusent cette vision des choses en disant « faire une autonomie palestinienne, c'est faire un Bantoustan palestinien ». Alors, de l'autre côté, il y avait une coopération sécuritaire entre le Grand Mouvement National des Noirs Sud-Africains, l'ANC, qui est toujours au pouvoir aujourd'hui, et l'ONP. L'ANC et l'ONP collaborent sur la scène internationale, et aussi il y a des militants de l'ANC qui peuvent s'entraîner dans les camps palestiniens du Proche-Orient, en Jordanie, ou au Liban. Alors, la question est de savoir l'impact que tout ça peut avoir sur la politique intérieure américaine. C'est que les mouvements pro-israéliens aux États-Unis, ce qu'on peut appeler, parce que ce n'est pas seulement le lobby juif, mais c'est beaucoup plus large, les amis d'Israël prennent la défense de l'Afrique du Sud dans la politique américaine. Donc ils font une minimisation des relations entre l'Afrique du Sud et Israël. C'est qu'en plus, ces organisations juives sont très inquiètes de la dégradation aux États-Unis même des relations entre Noirs américains, dont une partie ont tendance à s'identifier avec les Palestiniens, et la communauté juive américaine. Alors, dans le plus grand secret, l'Afrique du Sud a fourni de l'uranium à l'État hébreu. Parce que vous vous rappelez, les Français avaient essayé de contrôler la production d'uranium enrichi par Israël, parce que c'était les Français qui avaient bâti l'industrie nucléaire israélienne. Et donc, clandestinement, les Israéliens faisaient venir de l'uranium d'Afrique du Sud pour compenser, pour avoir de l'uranium qui était en dehors du contrôle de la France. Alors, Israël a ensuite fourni du matériel nécessaire à l'Afrique du Sud pour les détonateurs d'armes nucléaires. Parce que si vous avez une bombe nucléaire, il faut quand même la faire exploser. Et le détonateur, c'est une partie relativement complexe. Et ensuite aussi, pour les Israéliens et les Sud-Africains ont travaillé dans le domaine des missiles. Parce qu'Israël a des missiles, mais c'est tout petit, hein. Donc, encore une fois, si vous envoyez un missile à longue distance, vous passez au-dessus des voisins, ce qui est gênant. Donc, c'est en Afrique du Sud que Israël teste ses missiles à moyenne ou longue portée. Il y a l'affaire du 22 septembre 1979, qui jusqu'ici reste une énigme. Donc le 22 septembre 1979, les satellites américains ont enregistré un double flash en Afrique du Sud correspondant à un test nucléaire. Cela a entraîné une grande confusion dans une administration Carter embourbée dans le dossier iranien. Différentes spéculations ont été émises sur la nature de cette explosion qui a laissé peu de traces radioactives. L'une, que ce serait l'essai d'une arme nucléaire tactique israélienne. En tout cas, ça permet pour l'Afrique du Sud de maintenir une ambiguïté sur son statut de possesseur ou non d'armes nucléaires. Alors, bon, disons tout de suite, en gros, nous savons aujourd'hui que l'Afrique du Sud, à la fin de l'apartheid, disposait d'environ d'une demi-douzaine de bombes nucléaires plutôt de nature tactique, c'est-à-dire à effet limité, enfin l'équivalent de 10 ou 50 fois à Hiroshima, pas un gros truc qui fait beaucoup plus de dégâts. Alors les organisations sionistes américaines soutiennent l'Afrique du Sud à la fois en essayant de dissimuler les relations entre l'Afrique du Sud et Israël, et d'autre part, par exemple, pour l'Anti-Defamation League, l'ADL, ils attaquent l'ANC et Mandela comme étant totalitaires, anti-humaines, anti-démocratiques, anti-Israël et anti-américaines. Les organisations pro-israéliennes soutiennent l'Afrique du Sud aux États-Unis. Les militants anti-apartheid aux États-Unis sont soumis à des pressions venant des organisations sionistes ou pro-sionistes américaines. On connaît le jeu. La fin de la guerre froide s'accompagne du démantèlement de l'apartheid à partir de 1990. Alors, rappelons aussi les chiffres, hein, parce que c'est des choses importantes. Une des raisons pour lesquelles l'apartheid peut être relativement facilement démantelé, c'est que même si le régime était absolument épouvantable, et si vous avez l'occasion d'aller à Pretoria, le musée de l'apartheid est une formidable réussite de muséologie moderne, parce que vous entrez dans un couloir, vous tirez un ticket, et on vous dit, selon le ticket, que vous êtes quelqu'un d'apartheid ou quelqu'un soumis à l'apartheid. Et ensuite, vous avez des circuits différents qui vous permettent de voir qu'est-ce que c'est d'avoir vécu comme partisan de l'apartheid ou avoir vécu comme adversaire de l'apartheid. C'est assez fabuleux comme réussite technique. Et donc, moi, il m'avait mis du côté de l'apartheid, hein, je ne sais pas pourquoi. La guerre froide s'accompagne de la fin de l'apartheid. Il faut d'urgence avoir recours à la gauche israélienne pour se démarquer de la politique précédente. Mais Mandela le dit tout de suite, le peuple d'Afrique du Sud n'oubliera jamais le soutien apporté par Israël à l'apartheid. Alors le processus de démocratisation en Afrique... Oui, je voulais dire une chose importante pour vous donner les rapports numériques. Une des raisons pour lesquelles c'est relativement facile, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de sang versé. Les 40 ans de l'apartheid, si on le fait partir de son régime absolu, c'est-à-dire de 1949, donc l'apartheid a duré un peu plus de 40 ans, a fait à peu près 7000 morts. Quand vous regardez les chiffres en Palestine, on est dans des proportions bien, bien supérieures au Nord. Plus le fait que j'ai déjà dit, je crois que il y avait quand même une cohabitation. Les familles blanches avaient des domestiques noirs. Donc ils se connaissaient. Ce qui n'est pas le cas en Israël, Palestine. Donc, on supprime les armes nucléaires, mais avant que l'ANC arrive au pouvoir. La demi-douzaine d'armes nucléaires sud-africaines sont détruites. En 91, le pays adhère au traité de non-prolifération et à partir de 93 se soumet au contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Autrement dit, quand Mandela arrive au pouvoir en 1994, l'affaire est réglée avant. Ou si vous voulez être plus cynique, tout se passe comme si les États-Unis avaient exercé une forte pression pour interdire à un pays africain de disposer d'un tel armement ou de le transmettre à des pays hostiles aux États-Unis. Donc l'ANC s'est contenté de mettre fin à la coopération militaire avec Israël et d'apporter un soutien diplomatique à la cause palestinienne. Alors maintenant, passons à Durban. Tournant de l'histoire. La révocation en 1991, de la résolution assimilant le sionisme au racisme avait été largement due aux pressions d'une Amérique victorieuse de la guerre froide et au lancement d'un processus de paix marqué par la conférence de Madrid. C'était dans le cadre d'une vision optimiste de l'avenir, les objectifs du millénaire. En 1997, l'Assemblée générale des Nations unies a décidé de convoquer une conférence mondiale sur la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée. Et cette conférence, au plus tard, devait se tenir en 2001. Les travaux préparatoires, mobilisant en particulier des milliers d'ONG, font apparaître immédiatement un clivage très fort entre le Nord et le Sud, avec la reproduction de la représentation raciale entre blancs et noirs, noirs se posant maintenant comme une identité collective. Pour les ONG humanitaires et autres venues de l'Ouest, enfin du Sud, du Nord, pardon, comme on dit à l'époque, le choc est particulièrement brutal, parce qu'on dit « vous êtes des blancs ». Alors, le haut commissaire de l'ONU pour les droits de l'homme, Mary Robinson, qui cherchait à obtenir un accord général sur la condamnation du racisme, a dû faire face aux pressions contradictoires des uns et des autres dans la préparation de la conférence. D'autant plus que, du côté américain, celui qui va gérer le dossier montre toutes les ambiguïtés de notre époque, puisqu'il s'agit du sénateur américain Tom Lantos, que vous voyez ici sur la photo, qui est d'origine juive hongroise, donc on peut le considérer comme un rescapé de la Shoah, s'est saisi du dossier de la conférence. C'est une des têtes de file des progressistes au Congrès, en particulier dans des affaires étrangères, un ardent partisan des droits de l'homme et de la défense de l'environnement. Il se préoccupe en particulier des minorités opprimées dont l'on reste dans le monde. Mais profondément sioniste, il ne prend pas en compte les Palestiniens. Et là, on a vraiment la contradiction habituelle entre des gens considérés comme libéraux ou progressistes face à la question palestinienne. Il y en a un qui est dans la délégation française à Durban qui pense à peu près comme Tom Lantos, mais il le dira plus tard, c'est Robert Badinter. Alors, les trois premières réunions préparatoires à Strasbourg, Santiago du Chili et Dakar s'étaient bien déroulées. En revanche, la réunion pour l'Asie qui se tient à Téhéran en février 2001 pose beaucoup plus de problèmes parce qu'on n'avait d'abord pas trouvé de pays asiatiques qui voulaient recevoir la conférence. Et donc, finalement, l'Iran a dit « on prend ». Et du coup, ça n'avait pas plu aux Américains que ce soit à Téhéran qui accueille la conférence préparatoire. Alors, pourquoi les pays asiatiques n'avaient pas voulu avoir la conférence préparatoire, c'est parce qu'ils avaient peur qu'on regarde dans leurs affaires intérieures et leur respect des droits de l'homme. Il n'y a pas de problème de droits de l'homme en Iran, c'est bien connu, mais ça c'est une chose. Dans le contexte de la seconde intifada, on voit alors une mobilisation contre le sionisme dont le but serait le nettoyage ethnique en Palestine et d'imposer un apartheid dans les territoires occupés. Et donc, pour le discours du genre du Sud, le sionisme est défini comme motivé par un sentiment de supériorité raciale. Alors, c'est repris à la conférence préparatoire suivante à Genève en fin mai 2001, où le caractère unique de l'Holocauste est contesté. C'est la fameuse concurrence des victimes, dont je vous rappelle que j'avais fait venir ici pour une conférence celui qui avait forgé ce concept, pour les gens qui se souviennent. Donc la concurrence des victimes, c'est de dire « bah oui, moi j'ai souffert plus que toi, moi aussi j'ai été victime de génocide, moi aussi j'ai été victime de crimes contre l'humanité. Il n'y a pas un crime unique, mais toute une série de crimes. Donc on est des égaux et c'est pas la peine que tu prennes toute la surface de l'affaire. » Évidemment, la concurrence des victimes, comme j'ai déjà expliqué, c'est un débat stérile, puisqu'il n'y a pas d'unité de mesure de la souffrance et de la violence. Alors, dès lors, la politique américaine est de faire pression pour supprimer toute référence à Israël et au sionisme comme condition de la présence des États-Unis à la conférence de Genève. Il faut s'en tenir à une condamnation générale du racisme et à des regrets en ce qui concerne le colonialisme et l'esclavage. Puisqu'après tout, on ne parle pas de la Tchétchénie, du Tibet ou du Cachemire. Alors, il est vrai que pour les nus, ils ne font pas partie du legs du colonialisme européen. C'est là la machine infernale de 1945. La charte des Nations Unies a défini les territoires colonisés par les Occidentaux comme étant des territoires non autonomes. Vous avez encore cette expression, elle est encore ressortie récemment à propos du Sahara occidental, si vous avez lu la presse. Mais s'il n'y avait pas d'occidentaux, on ne s'intéressait plus à savoir si le territoire était autonome ou pas. Donc c'est le cas de la complexité du Cachemire, du Tibet, occupé par la Chine en 1950, etc. Si les Tibétains avaient été occupés par les Britanniques comme les Britanniques avaient essayé de le faire, son problème aurait été réglé. Ils seraient devenus indépendants. Mais ils ont eu le malheur d'avoir été occupés par les Chinois. Donc ils ne sont pas dans la clause des territoires non autonomes. Alors il faut s'en tenir, disent les Américains, un cadre global dans lequel aucune ère culturelle n'est exempte de racisme et de xénophobie. Autrement dit, chacun doit nettoyer chez soi et ne pas regarder ce qui se passe chez le voisin. Alors, du fait de son unilatéralisme marqué, comme je l'ai dit, par le rejet du protocole de Kyoto sur le réchauffement climatique, l'administration Bush a du mal à mobiliser les alliés européens, d'autant plus que certains pays comme la France de Jacques Chirac est très préoccupé par la dégradation des relations Nord-Sud. Ça, il faut reconnaître à M. Jacques Chirac que ça a été, durant toute son action politique, quelqu'un qui a été hanté sur le problème des relations Nord-Sud, parce qu'il avait une ouverture extraordinaire sur les cultures non européennes. À la limite, on disait que Chirac, la culture européenne, ça n'intéressait pas. C'était les arts premiers, c'était les arts chinois, japonais, etc. Et donc, il avait vraiment une très grande inquiétude sur les divergences entre Nord et Sud, même si ensuite il le transformait en action politique à travers la francophonie, etc., ce qui est normal, c'était sa fonction. Alors, s'y ajoute la différence de perception des perspectives historiques. Il y a les pays de l'Europe continentale qui ont connu l'occupation durant la Seconde Guerre mondiale et qui ont donc une sensibilité à la question de l'occupation palestinienne. Et puis, il y a les pays comme la Grande-Bretagne qui n'a pas connu l'occupation sauf Jersey et Guernsey, les Anglo-Normandes et les États-Unis, qui ne comprennent pas comment une question de l'occupation peut susciter des effets mémoriels chez les pays d'Europe continentale. En ce qui concerne l'Afrique, Washington laisse entendre aux intéressés que se concentrer sur la Palestine risquerait de faire passer au second plan ce qui les intéresse directement, c'est-à-dire la question du colonialisme et de l'esclavage. Il serait possible d'exprimer des regrets et des remords profonds, disent les Américains, « deep regret and profound remorse », mais non des excuses, « apologies », parce qu'elles pourraient être invoquées devant des tribunaux pour des demandes de réparation. Alors, c'est là le problème, parce qu'on veut bien reconnaître le passé, mais pas trop. Parce que sinon, ça risque d'avoir des conséquences juridiques. Alors, le problème réside dans la logique de construction des textes. Une conférence internationale comme celle de Durban, ce sont des séries de brouillons successifs que les participants s'échangent avec correction à chaque tour pour arriver à la fin à un texte définitif. C'est comme ça que fonctionne la COP, etc. Donc il est évident que les textes de départ de la conférence de Durban sont extrêmement violents et virulents, puisque dans la logique de Mary Robinson et des experts de l'ONU, on doit progressivement atténuer le texte à faire mesure des rédactions successives. Mais l'administration Bush et les amis d'Israël ne veulent absolument pas qu'on évoque dès le départ la question de Palestine. Donc d'abord Bush annonce le retrait des États-Unis de la conférence, puis finalement une représentation de bas niveau, plus celle de Tom Lantos. Inquiet de l'évolution des événements, les dirigeants occidentaux font de même en se tenant à une représentation au niveau des ambassadeurs. Du coup, les grandes personnalités de la conférence de Durban, ce sont les mêmes d'habitude, les mêmes suspects. Arafat, Fidel Castro et Am Moussa, le secrétaire général de la Ligue des États arabes. C'est ainsi que les Occidentaux se sont mis hors jeu, en quelque sorte, en se maintenant à une présentation de bas niveau à la conférence. Donc, voilà, vous avez là une photo des manifestations pro-palestiniennes à Durban avant l'inauguration de la conférence. Alors, d'abord, on a la réunion du Forum des ONG à la fin août 2001, où les délégués israéliens et juifs se trouvent à de fortes pressions face aux accusations de racisme et d'apartheid en Israël. Le forum accuse l'État hébreu de perpétration systématique de crimes racistes, comprenant crimes de guerre, crimes contre l'humanité, actes de génocide et nettoyage ethnique. C'est-à-dire la situation d'aujourd'hui, elle est déjà présente à Durban en 2000. Ah. Alors, du coup, les autres répondent que les gens du tiers-monde sont des racistes et des antisémites. Et donc, on a des échanges d'injures entre les partis dans les forums des ONG. Alors, Mary Robinson essaye de sauver l'affaire en marquant que Durban ne peut résoudre la question du Proche-Orient, mais ne peut pas non plus l'ignorer. Elle tient toujours à son idée que ce qui comptera, ce sera la rédaction finale, le texte final, qui sera beaucoup plus doux que les textes qui sont échangés au début. Dans son discours d'ouverture, le 31 août 2001, le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, appelle à la modération de tous. Je cite, « Les accusations mutuelles ne sont pas l'objet de cette conférence. L'objectif principal doit être d'améliorer le sort des victimes. » Il insiste sur l'Holocauste que le peuple juif a connu, mais, je cite, « Pour autant, nous ne pouvons pas attendre que les Palestiniens acceptent cela comme une raison pour ignorer les torts qui leur sont faits. Déplacements, occupations, blocus et aujourd'hui exécutions extrajudiciaires, quel que soit le terme par lequel on le décrit. » Arafat appelle la conférence à se tenir aux côtés des Palestiniens et de la justice face à la politique suprématiste israélienne. Dénonçant l'escalade militaire, il affirme que cette brutalité et cette violence sont mues par une mentalité de suprématie, une mentalité de discrimination raciale, de transfert de population, de nettoyage et d'imposition quotidienne de colons à notre peuple. Notre peuple palestinien torturé en but à ce traitement avec cette colonisation et cette discrimination raciale a les yeux tournés vers cette conférence pour qu'elle se tienne à nos côtés, qu'elle se tienne aux côtés de la justice, aux côtés de la légitimité internationale qui est actuellement foulée aux pieds par le gouvernement israélien. Bon, on passe quand même à un autre sujet qui est la condamnation du colonialisme et de l'esclavage, mais avec immédiatement la question des demandes de réparation. Du coup, Israël et les États-Unis décident de se retirer de la conférence, du fait qu'en particulier, on parle de génocide pour la Palestine. Et du coup, Amnesty International et Human Rights Watch protestent en disant que l'accusation de génocide est mal fondée. Donc je cite la déclaration de Human's Rights Watch. Notre position est qu'Israël commet de graves abus, notamment des exécutions extrajudiciaires, des tortures et des arrestations arbitraires. Il doit être critiqué pour son bilan, mais l'utilisation du terme génocide n'est pas appropriée. Alors c'est du côté des pro-israéliens dans le monde, c'est un déluge d'accusations contre la conférence. Ainsi, le prix Nobel de la paix, survivant de la Shoah, Elie Wiesel s'exprime ainsi. Cette conférence contre la haine est devenue une conférence de la haine. Honte à ceux qui l'ont organisée de cette façon, honte à ceux qui n'ont pas suivi les États-Unis et Israël dans leur protestation. Comment des nations civilisées ont-elles pu accepter de rester? Et on le voit que, quasiment inconsciemment, Wiesel reprend le discours colonial entre les civilisés et les non-civilisés. Alors c'est quelque chose de très fréquente pour les gens originaires d'Europe centrale et orientale, parce que ce sont des pays qui n'ont pas connu d'expérience ultramarine, donc ils n'ont pas connu de décolonisation avec toutes les expériences mentales que comprend la décolonisation. C'est-à-dire qu'en Europe de l'Ouest, en France, en Grande-Bretagne, etc., là quand on a perdu les colonies, on a cessé de dire qu'on était la civilisation. Tandis que là où on n'a pas connu les colonies, on a tendance à se dire « on est la civilisation ». Pour le mouvement sioniste et ses soutiens, l'hostilité envers l'État hébreu ne peut lui être que la poursuite d'une haine plurimillénaire. Ce qui se passe à Durban n'est qu'une continuation du nazisme. Pour de l'autre côté, la dépossession et l'occupation sont au fondement d'un refus qui s'inscrit plus largement dans le cadre de l'histoire coloniale et raciale. Les représentants des Noirs américains reprochent à l'administration Bush un retrait qui ne permet pas aux États-Unis de condamner l'esclavage et la discrimination. Il est vrai que la conférence allait aussi dans le sens d'assimiler l'esclavage à un crime contre l'humanité, ce qui pouvait, dans le droit américain, conduire à des demandes de réparation. Alors la France n'est pas concernée, puisque la loi Taubira du 21 mai 2001, donc antérieure à la conférence de Durban, rappelle « La République française reconnaît que la traite négrière transatlantique ainsi que la traite dans l'océan Indien d'une part et l'esclavage d'autre part perpétrés du XVe siècle aux Amériques et aux Caraïbes, dans l'océan Indien et en Europe, contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes, constitue un crime contre l'humanité. » Mais la loi Taubira pose un problème, c'est qu'elle ne parle que de la traite atlantique ou de l'océan Indien, c'est de la traite occidentale. Mais elle ne prend absolument pas en compte la traite intra-africaine et la traite dite islamique. Donc elle est tout à fait partielle, ou partielle, la loi Taubira. Mais du coup, les Français, ils sont tranquilles parce qu'ils ont déjà classé comme ça le dossier. Les Européens disent qu'il n'est pas question de réparation. Bon, on peut continuer à fournir de l'aide au développement, mais l'aide au développement ne doit pas être pensée comme une réparation à l'histoire de l'esclavage, compte tenu du fait aussi qu'il existe d'autres traites que la traite atlantique et qu'il faudrait peut-être les prendre en compte si on veut continuer de discuter. Et puis, en plus, les réparations peuvent apparaître pour les Européens comme un nouvel moyen de construire une rente pour les régimes du tiers-monde. Et puis, il y en a qui se protestent en disant « et nous, et nous, et nous ». Bon, ce sont les intouchables indiens qui mènent une campagne contre le régime des castes, ce qui déplaît aux autres qui veulent prendre la défense des travailleurs immigrés. Alors les Européens tentent de trouver des textes de compromis en disant qu'ils feront des regrets pour le colonialisme, mais les Africains insistent sur les réparations en disant que... les Africains pourraient accepter le compromis, mais les Noirs américains s'y refusent, parce qu'eux, ils veulent des réparations aux États-Unis. Après tout, les États-Unis ont accordé des réparations pour les Japonais, les Américano-Japonais qui avaient été internés durant la Seconde Guerre mondiale. Alors, le problème des réparations aux États-Unis est encore plus compliqué du fait que depuis les années 60, vous avez une importante immigration noire vers les États-Unis, soit des Caraïbes, soit de l'Afrique noire. Colin Powell est descendant d'immigrants caribéens et non pas de noirs américains. Et Barack Obama, son père était kényan, pas un noir américain. Donc vous voyez toutes les complexités dès qu'on fait des retours en histoire. Qui a le droit aux réparations, hein, d'autant plus que vous avez des intermariages entre les différentes populations. Alors, un compromis est avancé par l'Afrique du Sud avec la reconnaissance du droit inaliénable à l'autodétermination et à un État indépendant des Palestiniens, ainsi que le droit à la sécurité de tous les États de la région, y compris Israël. Le texte reconnaît le droit au retour volontaire des réfugiés palestiniens et se dit très préoccupé par l'augmentation de l'antisémitisme et de l'islamophobie dans différentes parties du monde. Alors, en général, quand on fait la condamnation à la fois de l'antisémitisme et de l'islamophobie, on mécontente tout le monde. Parce qu'il y en a qui veulent que la condamnation de l'un et pas la condamnation de l'autre. Nous rappelons que l'Holocauste ne doit être jamais oublié. Sur la question de l'esclavage, j'ai dit, les Européens veulent bien admettre le crime contre l'humanité, mais à titre rétrospectif. Oui, parce que de toute façon, au XVIIIe siècle, l'esclavage était de droit, partout dans le monde pratiquement. Donc dire que c'est un crime contre l'humanité ne correspond pas au statut du droit qui existait au XVIIIe siècle, non seulement dans les pays européens, mais aussi dans les pays d'islam et ailleurs dans le monde. D'ailleurs, ce qui choquait les Européens au XVIIIe siècle dans les questions d'esclavage, c'est que les musulmans avaient des esclaves blancs et pas seulement des esclaves noirs. Alors que les Européens n'avaient que des esclaves noirs. Alors le retrait américain est condamné avec virulence par les éditorialistes arabes, y compris dans les pays alliés des États-Unis. L'administration Bush est jugée responsable de la détérioration de la situation en Palestine. En quelque sorte, comme toujours, on ne peut rien faire sans les Américains, mais quand on ne peut rien faire quand ces derniers ne font rien. Ça, c'est l'adage essentiel de la politique d'aujourd'hui. Vous voyez, sur l'Ukraine, par exemple, sur Gaza, on ne peut rien faire sans eux, mais s'ils font rien, on ne peut rien faire non plus. Finalement, les deux discours sur les droits de l'homme sont réactivés. Le premier porte sur la culpabilité de l'Occident en matière de racisme, de colonialisme et d'esclavage et tourne à une exigence de faire payer le prix du passé sous forme de réparation matérielle et non plus de symboles. Le second porte sur le présent d'un monde non occidental composé plus que largement de régimes politiques autoritaires, incapables de démocratie et réfractaires aux nouvelles normes de liberté comme la pleine égalité des sexes et l'émancipation des homosexuels. De puissants courants identitaires sont en train de s'affirmer en ce début de XXIe siècle. Le premier rejette l'universalité des droits de l'homme au nom de valeurs particulières, comme je l'ai dit, mais en reprenant la catégorie des civilisations telle qu'elle a été définie par l'orientalisme européen du XIXe siècle. Puisque sur les civilisations, elles ont été définies par les orientalistes européens à partir des années 1830-1840. Je le revois à d'autres textes que j'ai faits. Donc, le second courant définit une authenticité supposée des cultures qui ne doivent pas se laisser corrompre par les productions de la modernité, surtout si la modernité est définie comme exogène. Il ne s'agit pas seulement de valeurs et de comportements, mais aussi de réactions face aux mouvements de migration de populations exploitées par les mouvements que l'on peut définir comme authentitaires. Donc il y a trop de musulmans, il y a trop de noirs, il y a trop de ceci, il y a trop de cela chez nous. Tout cela n'a vraiment rien de nouveau, comme je l'ai dit, puisqu'on est dans tous les discours issus à la fois de l'expérience intra-européenne et de l'expérience coloniale européenne. C'est là qu'on l'oublie toujours. Par exemple, quand les gens vous expliquent de façon pontifiante que c'est le colonialisme qui a inventé le racisme, ben, ils ne voient pas du tout que la notion raciale a d'abord été créée pour définir les populations européennes entre elles dans la pensée des Lumières et post-Lumières. Donc ça n'avait rien à voir avec le colonial au départ. Alors comme toujours, le réel est plus complexe. Car comme le démontre la vie matérielle, les objets, les cuisines de diverses provenances s'entremêlent et la révolution numérique est en train de généraliser des comportements semblables dans le monde. C'est toujours la même chose, j'insiste. Dès que deux mondes entrent en contact, la première chose qui s'échange, ce sont des produits matériels. L'Europe, bien avant de faire toute colonisation de l'Asie du Sud-Est, était remplie de vases chinois, de porcelaine, de cotonnades indiennes, etc. Il n'y a pas un intérieur bourgeois européen au XVIIIe siècle qui n'a pas des objets d'origine orientale ou pseudo-orientale, puisqu'on en fabrique chez soi des objets orientaux, parce que ça correspond à la demande. La culture matérielle des pays d'Orient est entrée bien avant toute expérience coloniale nos intérieurs. Et c'est la même chose dans l'autre sens. Ce n'est que le contact se produit. Bah, d'abord, vous avez, comme je l'ai déjà expliqué, je crois, l'équivalent des Turqueries. Vous savez qu'on se moquait des Turcs, des musulmans, en faisant ce qu'on appelle des Turqueries. Et l'exemple le plus célèbre est la Turquerie du bourgeois gentilhomme de Molière, qui au passage est le seul texte que nous avons complet de la lingua franca. Ce qui est encore une curiosité supplémentaire. Dès que ça commençait à bouger, les orientaux ont commencé à voir des tableaux à l'européenne, des chaises et plus des poufs, etc. Et donc on voit très très vite les échanges matériels. Et ça se continue jusqu'à aujourd'hui. Nous ne nous posons même plus la question pour aller à un restaurant chinois, à un restaurant indien, thaïlandais, faire de l'aïkido, du yoga et tout ce que vous voulez. Autrement dit, les cultures matérielles fonctionnent constamment et ont toujours fonctionné constamment, sinon il n'y aurait pas eu de route de la soie, sur des échanges qui ne posaient pas de problème. Les problèmes, c'est dès qu'on met des intellectuels dedans, qui disent que les cultures sont infranchissables, qu'elles ne communiquent pas, qu'elles ne se parlent pas entre elles. Donc, reprenez toujours le problème. Il ne faut pas laisser des intellectuels jouer avec des allumettes. Parce que le feu, ça brûle. Jacques Prévert. Donc je vais arrêter là, parce que vous comprenez qu'à Durban, je vous ai arrêté au 10 septembre 2001.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.